Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce 30e épisode, nous parlerons de la saga Twilight, une romance vampire à succès, écrite par Stephenie Meyer puis adaptée au cinéma. Et nous allons en discuter avec Mimi, une très grande fan pour qui cette œuvre a toujours eu une place spéciale. À 12 ans, elle ira voir Twilight par hasard au cinéma et en ressortira avec une obsession pour cet univers dans lequel elle trouvera refuge dans ses moments de tristesse. Nous discuterons donc de la bouée de sauvetage qu'a représentée cette histoire tout au long de sa vie, mais aussi de sa relation d'amour-haine avec le personnage de Bella Swan, ainsi que du regard critique qu'elle pose à présent sur certains aspects problématiques du récit, tels que la glorification des relations toxiques, l'étrange concept d'imprégnation ou encore l'appropriation culturelle. À titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce 30e épisode. Très bonne écoute à tous. Eh bien, Mimi, comment vas-tu ?
Eh ben, ça va et toi ?
Ça va très bien. Et tu es prête à parler de...
Oui, j'en parle toute ma vie, donc là, c'est le moment.
Ça y est.
Enfin, on m'écoute.
Ça a été quoi ton premier contact avec la saga Twilight ?
En fait, j'étais chez ma sœur et il y a eu la bande-annonce du film. J'ai vu en fait Edward Cullen, je me suis dit « Oh, c'est Cédric Diggory en fait, d'Harry Potter ». Donc, je sais pas, la bande-annonce, ça m'a plu. Je me suis dit « Ouais, c'est un film à aller voir au cinéma ». Après, j'avais 12 ans. Franchement, sur le moment, sans plus. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que des filles de ma classe, mes amies d'enfance en fait, on avait prévu d'aller au cinéma tous ensemble un samedi. C'était une période où ça commençait à pas trop aller, donc j'étais un peu cloîtrée chez moi et ma mère elle m'avait forcée à sortir. Elle m'a dit ah, si tu y vas. Elle m'a mis de l'argent dans ma main, elle m'a dit allez va au cinéma avec tes copines et je suis partie voir Twilight pour la première fois de ma vie et ça a été l'expérience la plus grandiose que j'ai jamais vécue.
Grandiose, waouh.
Grandiose, ouais.
Qu'est-ce que t'as ressenti ?
Sur le coup en tout cas, les sentiments, ce que j'ai ressenti, les émotions, j'avais jamais ressenti ça pour un film en fait. J'étais, j'ai même pas de mots, c'était incroyable, c'était pas du tout mon genre de film et pourtant j'ai adoré du début à la fin.
Qu'est-ce qui t'a accroché ?
Je sais pas du tout. Peut-être l'univers des vampires que je connaissais vaguement via Dracula par exemple. Ou Buffy avec les vampires, c'était mes grandes sœurs qui regardaient ça. Moi j'étais pas du tout intéressée. Pour te dire la vérité, j'ai même jamais regardé un épisode de Buffy avec les vampires. Donc c'était vraiment pas un univers que je connaissais. Et je sais pas, ça m'a captivée. Je suis rentrée chez moi, j'arrêtais pas de parler de Twilight. J'arrêtais pas. Donc c'est devenu sujet à rire en fait chez moi parce que oh mon dieu, mais regarde là, elle est fan de Twilight. Mes sœurs, elles étaient contentes, elles aimaient lui, c'est l'adolescence, nanani. Ma sœur, elle habitait au Mans à cette époque et j'allais en vacances chez elle avec mon petit neveu. Et elle et mon petit neveu, ils étaient sortis. Et en rentrant, elle me dit j'ai une surprise pour toi. Et elle me sort le premier roman de Twilight, celui que j'ai actuellement sous les yeux parce que j'ai ma bibliothèque juste en face de moi. Et c'est le premier qu'elle m'a offert, le premier livre que j'ai lu Twilight. Et après ça, j'ai littéralement enchaîné avec le 2 et le 3 que j'ai eu pour mon anniversaire, ma maman qui me les a offerts. Et quelques semaines après, on m'a offert le 4. Il doit faire à peu près 600 pages.
Tu l'as lu en combien de temps ?
En un week-end à peine, samedi après-midi, dimanche matin, puis c'était fini. J'ai juste pas dormi.
Mais c'est comme moi et Harry Potter 5. Je l'ai lu en 3 jours, 4 jours, je sais plus.
Moi, par contre, Harry Potter, la lecture des livres est venue bien après. Et c'est justement, ça a été initié grâce à ma lecture de Twilight. J'avais jamais lu, en fait, de livres aussi gros, aussi rapidement.
T'as commencé par Twilight ?
Oui, parce qu'avant, j'ai toujours été une férue de lecture. Hein, et ça depuis toute petite. Mais moi, je lisais ce qui me passait sous la main. J'avais pas de genre en particulier. J'avais pas de livre en particulier. Ma maman, elle pouvait trouver, je sais pas, dans une brocante, des livres. Même pas le résumé, hein, mais juste me les apporter, je les lisais.
Okay.
Donc moi, ma lecture, ça a commencé avec des Harlequins, car ma sœur, elle était fan d'Harlequins, ouais. Donc je lisais beaucoup, beaucoup d'Harlequins, mais c'était juste le fait de lire, mais rien de particulier. Quand j'ai eu Twilight, non seulement c'était le premier book que j'avais qui était énorme pour moi, à cette époque en tout cas. Et en plus de ça, bah, j'ai tellement été passionnée, je savais déjà que j'allais aimer, mais retrouver les émotions et les sentiments que j'ai eus quand j'étais partie voir le film au cinéma, qui entre-temps n'était pas encore sorti en DVD parce qu'avant, c'était fallait attendre 6-7 mois après, voire même plus, après les sorties au cinéma. Le fait d'être aussi à fond dans ce livre et de lire un si gros pavé pour moi à l'époque, je répète, parce qu'aujourd'hui, je le vois, il est tout petit. Mais à l'époque, pour moi, c'était un pavé. Et aussi rapidement, et ne pas sentir en fait le temps passer en lisant, bah, c'est là que j'ai su, ah ouais, c'est ça mon genre, c'est ça mon type de livre. Et je suis partie chercher ensuite des livres assez similaires, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à lire Vampire Diaries. Ça m'a ouvert sur le monde des livres fantastiques, un peu New Romance, un peu jeune adulte. Enfin non, pas jeune adulte du tout.
Sur le chemin du jeune adulte.
Ouais, ça m'a initiée en tout cas vraiment à tous les types de lectures que j'ai aujourd'hui.
Mais est-ce que t'as déjà retrouvé ce moment d'apothéose, de grandiose dans d'autres livres ou dans d'autres films où c'était vraiment Twilight et ça reste jusque maintenant Twilight?
Alors non, parce que bizarrement, pendant très longtemps dans ma vie, j'étais persuadée que je ne retrouverais pas ce sentiment que j'ai eu avec Twilight. Et il y a eu en fait un espèce de throwback. Je suis la dernière de la famille et j'ai un grand frère au-dessus de moi, 6 ans mon aîné, qui est extrêmement fan d'Harry Potter. Et moi, j'apprécie Harry Potter plus dans le sens où bah, je regarde ça avec mon grand frère, c'est tout. Et il y a eu un retour, en fait, c'est surtout la fanbase Harry Potter qui m'a re-ramenée dedans. Et je me suis dit, attends, je vais me refaire les Harry Potter. J'avais à peu près 14-15 ans. C'était juste avec mon frère au début, donc c'était quelque chose que je partageais. Je me suis appropriée exactement de la même manière dont je m'étais appropriée Twilight. Et j'ai re-eu ce sentiment grandiose, mais qui n'était pas à l'égal du premier sentiment. La dernière fois que j'ai ressenti quelque chose de grandiose...
Je pense que je sais.
Ouais, tu sais ce qui va arriver. Et ben c'était pour la série Game of Thrones.
C'est ça.
J'ai regardé les 7 premiers épisodes et j'ai pas du tout apprécié, et ensuite je me suis appropriée et là ça m'a transcendée, et encore plus que Twilight, et je pensais vraiment que rien ne pouvait dépasser ce que j'avais ressenti envers Twilight. On dirait que je parle d'un mec.
Et pourtant. Est-ce que selon toi, les films sont une bonne adaptation des livres? Ou même si, parce que j'imagine qu'il y a des choix qui ont dû être faits, est-ce que l'essence est toujours là?
L'essence, elle est là. On la retrouve notamment dans les scénarios, en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les scénarios sont extrêmement fidèles aux livres. Ça, c'est top. Moi, je conseillerais toujours la lecture des romans. C'est plus complet, il y a beaucoup plus d'informations, et il est clairement impossible, en fait, de condenser toute cette information dans un film de 2 heures. On a plus de profondeur sur les personnages, on la retrouve pas forcément, en fait, cette profondeur dans les films. Et comme je n'aime pas l'acting de ma très chère amie Kristen Stewart, qui jouait là, et ben, je préfère, en fait, les livres. Mais oui, il y a eu une bonne adaptation des films. Robert Pattinson a très bien compris, je pense, le personnage torturé d'Edward Cullen. Les scénaristes ont fait un très bon travail. La première réalisatrice, Catherine Hardwicke, et ensuite Chris Waits, ont vraiment saisi l'essence de Stephenie Meyer. Mais je conseillerais toujours les livres. Mais aller voir les films, ils sont pas mal.
Ça me surprend que t'aies aimé le premier, parce que j'ai l'impression que le premier, les gens l'ont absolument détesté. Et pourtant, moi, c'est celui que je préfère. Mais j'avoue que j'ai un biais, parce que Catherine Hardwicke a aussi fait un de mes films préférés, qui est 13. Et ce film-là, c'est un film fondateur de ma préadolescence. J'ai retrouvé un peu de sa manière de filmer. C'est comme si elle met une sorte de filtre devant la caméra. Le teint est un peu bleuté, un peu verdâtre.
Et ça, bizarrement, tu sais, c'est un truc que j'avais pas remarqué. Je l'ai remarqué que quelques années après, je me suis dit, mais c'est vrai que le fond est extrêmement bleuté, tu vois. Et je la retrouve aussi un peu. Alors moi, j'ai pas vu 13, mais j'ai vu... Le Petit Chaperon Rouge.
Le Petit Chaperon Rouge, ok.
Oui,
okay.
Et on retrouve justement cette espèce de teinte dans le film, et j'aime beaucoup, en fait, l'ambiance que ça donne. Ça représente un peu la météo de Forks, donc l'ambiance, l'environnement. En même temps, les deux personnages, en même temps, le côté vampire, donc froid. Donc, j'ai adoré, en fait. Et je m'en suis même pas rendu compte sur le coup. C'est des années après que je me suis dit, ah oui, mais c'est vrai qu'il y a un filtre qu'on ne retrouve pas dans les autres films, en fait. Chaque film a son filtre propre, mais ils ont gardé son idée. Niveau réalisation, franchement, c'est les deux à qui je tire vraiment mon chapeau pour la franchise Twilight, parce que vraiment, c'était du très bon travail, à mon avis en tout cas, c'était un très très bon travail.
Est-ce que tu relis Twilight à un moment particulier de ta vie? Parce que moi, il y a des périodes qui sont reliées à des passions que j'ai eues. Par exemple, The Weeknd, c'était quand je...
passé le bac, on va dire, dans ces périodes-là. Eragon, j'ai lu ça quand j'étais en 6e. J'étais dans la cour d'école, j'avais le gros livre, là. Je sais pas si tu te souviens de ces livres de dragons, là. Et je me vois le lire dans la cour d'école en 6e. Genre, j'ai vraiment ce souvenir-là particulier. Et est-ce que toi, Twilight, tu relis ça à un souvenir, à un moment particulier de ta vie ou une phase?
Alors non, parce que moi, mon souci, c'est que je suis quelqu'un d'obsessionnel avec ces trucs-là que je m'approprie. Et donc Twilight, mon obsession, ce n'était pas une période ou un moment de ma vie où, ah oui, je me rappelle. Moi, ce que je me rappelle, c'est que j'étais en 5e, qu'un samedi, je suis partie voir Twilight. Ensuite, pendant une longue période, ce n'a été que Twilight, que Twilight, que Twilight, que de la relecture des livres. Vraiment, type obsession. Après, si je relis un souvenir, bizarrement, le souvenir qui reste et qui a le plus eu d'impact dans mes émotions, ça a été justement quand j'ai terminé le dernier tome. Je me rappelle exactement où j'étais. J'étais chez ma sœur, dans la chambre de mon neveu. J'ai fermé mon livre et ça y est, c'était fini. Et à chaque fois que je repars dans cette pièce, il y a ce souvenir-là qui revient. Mais sinon, Twilight, il n'y a pas de période en particulier. Tu peux me voir comme ça en février. Allez hop, je me refais tous les livres. Ou je sais pas, allez hop, j'ai vu une pub. Ou je sais pas, j'ai vu un TikTok. Un truc tout bête et hop, il veut replonger.
Ok, donc ça fait partie de toi finalement, il n'y a pas de passé ou de...
Non, c'est au quotidien.
Ouais, c'est au quotidien.
Ouais. Okay. Et même aujourd'hui, là, à 26 ans, bah oui, c'est toujours d'actualité.
Qui ton personnage préféré?
Bah là, en fait, le problème, c'est qu'il y a une dualité, c'est qu'il y a la Mimi qui a découvert Twilight, tu sais, cette expérience grandiose, et il y a la Mimi aujourd'hui. Donc la Mimi de l'époque, elle serait partie sur Edward, que je trouvais très bien écrit, extrêmement profond, si romantique, waouh. Mais la Mimi d'aujourd'hui, c'est définitivement Jacob. Mais jamais Bella.
Pourquoi Edward?
Le personnage que Stephenie Meyer a écrit, je ne l'ai jamais rencontré dans mon entourage. Il n'y avait pas ce type de comportement. Ça m'a immédiatement séduit. Quand il faisait la cour à Bella, j'avais l'impression qu'il me faisait la cour à moi et ça me plaisait. J'aimais bien comment il pensait, j'aimais la complexité, le fait qu'il soit pas juste un personnage en surface. C'est la première fois que je m'intéressais en fait autant à la profondeur d'un personnage et je pense que ça m'a touchée. Donc directement, je me suis accrochée à lui. Vraiment, j'ai continué Twilight parce que je voulais en savoir plus sur les aventures d'Edouard, même pas de Edouard et Bella.
Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait une sorte de transition entre...
Bah j'ai grandi.
Naturellement.
Mon changement, il date de peut-être 2020, à peu près depuis 2019-2020, je suis pro-Jacob. Certains comportements qui vont être romantisés dans les livres et que je trouvais romantiques à l'époque, hein, et ben en grandissant, aujourd'hui, je les casse plus dans une case toxique. En tout cas, c'est pas quelque chose que j'attendrais de mon partenaire et je ne trouverais pas ça séduisant ou romantique. Et le fait que la dépendance que Bella, elle a, il le sait, il en est pleinement conscient, il l'accepte en fait.
Il l'encourage aussi, tu penses?
Aussi, énormément, bah, en continuant. À côté, il a ce petit combat au début, tu sais, non, écarte-toi de moi, non, je vais te faire du mal. Mais après, très vite, cette dépendance, il l'accepte, il essaye de partir dans le deuxième volet, dans le troisième volet, il l'embrasse complètement, vraiment. Et justement, il en tire parti à travers le fait qu'il soit contre cette relation avec Jacob. Bah, il va jouer avec les sentiments de Bella parce qu'il sait l'énorme attachement, l'énorme dépendance qu'ils ont l'un pour les autres, en fait. C'est l'interdépendance et c'est pas bon. Si je vois quelqu'un, en fait, adapter ce comportement avec moi, je vais mettre des limites parce que ça peut aller très loin et ça peut être dangereux dans une relation.
Est-ce que ça teintait ta vision de l'amour à l'époque? Est-ce que tu recherchais ça avant d'avoir ton moment un peu Eureka, on va dire?
Oui, je le recherchais. J'en cherchais des teintes dans ma perception de l'amour, dans mon idéal de petit copain à l'époque. Bah oui, j'essayais un peu d'avoir ce côté un peu Edward Cullen. Mais après, comme je t'ai dit, mon univers Twilight, que je me suis créé moi et Twilight, et ma réalité, elles n'ont même pas les mêmes couleurs.
Pourquoi Jacob?
Pourquoi cet attachement à Jacob? Il n'est pas romantique en soi. Le personnage de Jacob amène avec lui une culture, la culture des Kilotes. des natifs américains. J'aime cette culture parce que moi aussi, je suis issue d'une grosse culture et j'aime en fait me dire que c'est pas forcément la culture américaine ou occidentale, mais que ça va être une culture un peu différente.
C'est de la diversité.
Ouais, et j'aime retrouver ça dans le contenu que je consomme aujourd'hui.
Ce serait quel personnage, pas que tu n'aimes pas, mais avec lequel tu as moins d'affinité, avec lequel tu as vraiment du mal à te connecter?
Bah, ça serait Bella. En tout cas, la Mimi d'aujourd'hui, elle remet pas mal en question sa manière de penser, sa manière d'agir, les choix qu'elle fait. Quand je remets en question ses choix, c'est en balançant face à une situation réelle. Dans la vraie vie, tu ne fais pas ça. Bon, après, là, c'est du fantastique. Mais c'est aussi, ça fait partie de ma manière de penser, ma manière d'être, ma manière de critiquer. J'aime donner un raisonnement logique à une question, que ce soit dans une série fantastique. Je peux me poser une question, en fait, qui pourrait tirer du rationnel sur des dragons. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai remis en question les choix de Bella dans les livres et dans les films parce que je ne me retrouve pas en elle et que moi, je n'aurais pas agi comme ça. On n'a pas la même manière de penser. On ne se ressemble en rien. On ne recherche pas les mêmes choses.
Est-ce que tu as un exemple de ça, justement? D'un cas de figure où tu n'aurais vraiment pas agi comme elle?
Bah, Twilight 2, sa réaction face au retour d'Edward, alors que moi, je l'ai vue pendant 1h30 et j'ai souffert pendant plus de 400 pages avec elle de son abandon. Je l'ai vue commencer à se reconstruire et il suffit qu'il revienne et sa codépendance, elle recommence, elle revient. Non, ma belle, on avait bien commencé, bien terminé. Moi, je réagis comme ça.
Mais en même temps, c'est très humain.
C'est humain, certes, mais...
Est-ce que vraiment t'aurais eu la force qui lui a manqué de dire non? Tu rentres plus dans ma vie.
Alors non, je n'ai pas dit tu ne rentres plus dans ma vie. J'ai dit c'est pas t'es parti mardi, tu reviens mercredi, on reprend jeudi. Il faut un laps de temps. Reconstruis-toi. T'es justement en train d'utiliser ce laps de temps qui t'avait laissé à bon escient pour toi parce que t'étais en train de te reconstruire. Pourquoi s'arrêter en bon chemin? Si tu veux après te remettre avec Edouard, il n'y a pas de souci. Mais évitons cette relation de dépendance qui te fait faire n'importe quoi et qui te rend extrêmement égoïste dans tes choix. Après, peut-être que Bella, sa relation avec ses parents et moi, ma relation avec mes parents fait que face à elle, j'aurais peut-être pas fait le choix de ouais, je deviens vampire et j'abandonne tout. Peut-être qu'elle, elle n'est pas aussi attachée, mais moi, par exemple, c'est quelque chose auquel j'aurais pensé. Et j'y ai pensé parce que pendant un temps, j'étais complètement matrixée et je me suis dit, et si le cas de figure arrivait? Et si demain, bah ça y est, il y a Edouard à ta fenêtre, allez, je te transforme. Tu le fais? Bah non. Bon, là, je suis au 8e, je ne lui conseille pas. Mais... mais tu vois ce que je veux dire? Genre, je me dis, non, j'aurais à penser. En fait, moi, je pense que c'est ma personnalité, si je suis comme ça, je prends énormément de recul face à une situation qui peut paraître trop rapide ou oppressante.
Mais est-ce que tu avais ce recul quand tu étais jeune? Parce que...
Oui.
Ok,
oui,
d'accord.
Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai vu le film. J'ai lu le livre, j'ai enchaîné avec le tome 2. Je n'ai pas du tout apprécié la réaction de Bella à la fin du tome 2 parce que le tome 2 m'avait énormément touchée. J'étais moi aussi dans une espèce de passe où j'étais triste en fait et justement pouvoir lire de la tristesse, bah, ça me permettait aussi d'extérioriser la mienne. Et ensuite après ça, bah, Mago elle me fait ça. Non. Donc déjà à l'époque j'étais indignée du fait qu'elle le reprenne aussi vite. Et ça a juste continué dans les films et c'est un des problèmes que je soulève encore aujourd'hui.
C'est quel volet de Twilight que tu préfères?
C'est le 2, Tentation.
Donc c'est juste la fin de Tentation que t'as pas aimé?
Littéralement, sinon après du début à la fin, it's a masterpiece. Que ce soit le roman ou le film.
Donc c'est le fait de vraiment t'identifier à la douleur de Bella Swan pendant ce temps-là où Edward la quitte en fait.
Il y a la douleur et puis ensuite il y a l'espèce de début de reconstruction qui donne un peu espoir quand avec Jacob elle apprend un peu à se centrer un peu plus sur elle-même, à savoir aussi un peu compartimenter ses émotions pour pas que ça soit trop pour elle. Et bah j'ai beaucoup aimé cette partie-là en fait du livre où elle s'ouvre un peu plus aux gens, donc elle se rend compte aussi que pendant un temps bah c'est vrai que c'était que Edouard, donc elle essaye de reparler avec ses amis, elle essaye de s'ouvrir un peu plus aux amis de Jacob, au monde de Jacob, elle sort des trucs qu'elle faisait même pas avant Edouard en fait, et ça j'ai beaucoup aimé. Et aussi il y a le côté tristesse qui je pense à l'époque je me rendais pas compte, mais j'étais peut-être moi aussi assez triste et ça me faisait du bien parce que je ne le montrais pas forcément. J'en avais peut-être pas conscience et le fait de pouvoir relâcher tout ça avec le personnage de Bella, bah, ça me permettait aussi d'extérioriser. Ça me permettait de pas devenir folle. Twilight a été un exutoire pour moi, clairement, parce qu'ensuite j'ai utilisé justement Twilight pour relâcher tout type d'émotion, la colère, la tristesse, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai autant relu les livres, c'est-à-dire que dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie, je prenais Twilight, c'était mon havre de paix.
Ouais, donc c'est vraiment devenu une partie de toi, en fait.
Aujourd'hui, Twilight est une partie de moi. Je lisais déjà, mais ça m'a ouvert à plus de lectures. J'ai commencé, en fait, à chercher un type de lecture. En plus de ça, bah, à l'époque, moi, j'avais de la chance. On avait, je sais plus comment ça s'appelle, un espèce de carnet, tu sais, un truc culturel donné par le lycée. Et ma mère aussi me donnait pas mal d'argent pour acheter des livres. J'avais de la chance. Et ça m'a ouvert, en fait, ça m'a permis d'alimenter encore plus cette passion qui, avant, c'était un petit feu. Puis ça s'est transformé en vrai truc.
Un feu de forêt.
Exact.
comment est-ce que les acteurs qui jouent dans Twilight influent sur ta perception des personnages et de l'histoire?
Le physique que j'attribue en fait au personnage de Stephenie Meyer, ce sont ceux des acteurs. Moi, ça n'a pas changé. Donc, Edward est représenté dans ma tête avec le physique de Robert Pattinson. Pareil pour Kristen Stewart et Bella. Pareil pour Taylor Lautner et Jacob. Pareil pour Elizabeth Weather et Ismay. Bref, tout le casting, quoi. De ce côté-là, rien n'a changé. Les qualités physiques sont les mêmes.
Est-ce que c'est vraiment du côté juste strictement physique ou est-ce que comment dire, c'est une association qui va au-delà de ça?
Non, parce qu'après, en fait, j'ai aussi appris à connaître les acteurs qui n'ont rien à voir avec les personnages. Par exemple, Robert Pattinson et Edward Cullen sont diamétralement opposés. Kristen Stewart et Bella Swan, je les critique de la même manière, certes, mais c'est pas la même bêtise. Par contre, c'est vraiment que le niveau physique. Après, je sépare bien les personnages et les acteurs.
Par exemple, quand tu vois Robert Pattinson dans un autre film, est-ce que tu arrives à dissocier, genre, ok, je vois Robert Pattinson dans ce film-là et il joue tel personnage?
Oui, j'y arrive parce qu'il est très doué. Donc oui, Robert Pattinson, aucun souci. D'ailleurs, j'ai eu aucun mal en fait à le différencier de Cédric Diggory que j'ai connu donc avant qu'il joue Edward Cullen. J'ai carrément réussi à dissocier les deux. Après, j'ai regardé d'autres films de lui, j'ai regardé Remember Me, plein de trucs en fait. Et oui, je vais peut-être reconnaître un peu les yeux, c'est les mêmes qu'Edward, d'accord, mais sans plus. A contrario, Kristen Stewart, bah, je trouve en fait qu'elle joue pareil. Donc c'est Bella Swan over and over again, vraiment.
Justement, j'allais demander, est-ce que t'aurais mieux apprécié Kristen Stewart si elle n'avait pas joué Bella Swan?
Oui, parce qu'il y a un film que j'ai, bon, je l'ai découvert après Twilight, parce que moi, Kristen Stewart, je la connaissais pas avant. Le film Speak, j'ai trouvé qu'elle avait très très bien joué en fait et qu'elle renvoyait extrêmement bien les émotions. Donc sur ça, par contre, je tire mon chapeau, mais après, sinon...
Comment est-ce que t'écrirais Bella Swan si tu pouvais l'écrire toi-même?
Oh, tu me poses une colle. Alors, déjà, je lui apporterai un peu de mon essence. Et moi, je suis quelqu'un avec un très gros caractère. Et je trouve que la Bella Swan la Bella Swan de Stephenie Meyer...
Mais aussi de Kristen Stewart.
Mais le personnage de Stephenie Meyer a beaucoup moins de caractère que moi. Donc moi, je lui appliquerais mon caractère. Ensuite, ce que je changerais, bah, c'est justement ce problème de dépendance. En fait, ça, je pense que sa relation avec Edward, c'est sa première réelle interaction sociale où elle y met du sien. Donc elle s'est accrochée à cette unique expérience, alors que moi, je suis quelqu'un d'une pluralité d'expérience. Justement, en fait, j'apprends en vivant ce même sujet, mais avec différents types d'expériences. Donc oui, là, je suis tombée une première fois folle amoureuse, ça n'a pas marché. Bah, je vais quand même continuer à essayer de m'ouvrir à plus. Et j'ai pas l'impression que la Bella de Stephenie Meyer le fait. Elle va s'accrocher et dépendre automatiquement. Pour elle, c'est bon en fait, c'est une fin en soi. Parce que aussi après, elle va avoir cette espèce de dépendance avec Jacob, qu'ensuite on va twister avec une histoire d'imprégnation ou je sais pas quoi.
Ouais, on va y revenir ça.
Ça m'a énervé, je veux même pas en parler.
Donc, on va en parler.
Non, si on en parlera, y a pas de souci. On va en parler. J'ai des critiques à émettre. Mais toute ma vie, on m'a éduquée en mode tu dois être indépendant. Tu ne dois pas justement t'accrocher à quelqu'un qui un jour pourrait partir et ça pourrait avoir un impact en fait sur toi. Il ne faut pas. Et pourtant, je me plonge énormément dans le monde. Dans les univers fantastiques ou autres, mais j'ai ce besoin, en tout cas dans la réalité, Mimi, elle est vraiment pro-dépendance. Pro-indépendance, pardon, oh mon dieu.
Lapsus révélateur.
Oh mon dieu, non, pro-indépendance. Et la meuf, elle insiste, tu sais, indépendant.
Tu parlais tout à l'heure du fait que tu recherchais des modèles qui te ressemblaient, des personnes qui te ressemblaient, des éléments sur lesquels te voir en miroir. Et je me demandais si tu écrivais aussi sur Twilight pour justement te retrouver.
Alors j'ai écrit. Et mon tout premier projet, ça avait été de réécrire littéralement la saga de Stephenie Meyer. Donc en prenant les mêmes contextes, mais juste en changeant certains dialogues qui ne me plaisaient pas, ou la tournure, ou la manière de dire. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai vu que je ne changeais pas que les dialogues, que j'apportais énormément de Mimi. Donc je me suis dit, bon allez, je me lance dans une fanfiction, un univers complètement alternatif, je prends les personnages et j'en fais ce que je veux. Et je l'ai fait, et j'ai posté, et j'ai eu des retours qui ne m'ont pas plu. J'ai pas aimé comment on m'a critiqué. J'aurais préféré qu'on se taise et qu'on me laisse faire ça mon délire en fait. C'était des trucs tout bêtes en fait, c'était on dirait plus une chronique, c'est pas vraiment de la fanfiction. À l'époque, tu sais, c'était à l'époque des chroniques sur Facebook, et moi j'avais écrit en français parce que je n'étais pas assez sûre de mon anglais, tout simplement. Et j'ai eu un retour en fait de la communauté de fanfiction française qui n'était pas ce à quoi je m'attendais en fait. Donc je me suis dit vous allez pas en fait gâcher mon plaisir, ma passion. Et c'était même pas gâché, j'étais gamine en fait et j'étais pas encore assez ouverte à la critique.
Toutes les critiques ne sont pas constructives. Hein.
Elles étaient pas forcément constructives, mais elles n'étaient pas méchantes non plus. C'est juste que moi, voilà, avec mon tempérament, j'ai dit ah bah si c'est comme ça, bam. Et j'ai enlevé de la plateforme et j'ai juste continué à l'écrire sur mon PC pour moi-même. C'est quelque chose que personne n'a lu à part donc les 6 premiers chapitres que j'avais postés sur fanfiction.net avant de les enlever.
Et là, on a combien de chapitres ?
Bah là, c'est terminé. Ça fait bien longtemps que j'ai fini ça, ouais. J'avais ouvert un autre projet, en fait, une continuité à cette histoire, mais je pense que j'avais atteint mon graal et que jamais je pourrais faire mieux que ce que j'ai fait là. Et depuis, bah ouais, j'ai pas écrit. Mais j'ai écrit une fanfiction et c'était sur Twilight.
C'était quoi la trame ?
Non.
Ok, on respecte. Dans Twilight, à commencer par la chose bizarre en chef qui est l'imprégnation. Je sais pas si tu veux d'abord nous expliquer ce concept.
L'imprégnation, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est quelque chose qu'on va retrouver donc chez les loups, Jacob et sa meute, Kilute. En fait, eux-mêmes, ils n'ont pas de définition précise de ce que c'est ou ce que ça veut dire. Donc certains anciens de la tribu vont dire qu'il s'agit de l'âme sœur, et d'autres, et ça c'est mon côté controversé en fait, qui dit que c'est pour faire perdurer la lignée du loup, en fait le gène de transformation lupine. C'est comme ça en fait qu'on explique l'imprégnation. Il y en a qui disent que c'est spirituel, voilà. Tu retrouves ton âme sœur spirituelle, la personne qui était faite pour toi sur cette terre. Et moi en plus je crois en fait à ce concept, donc c'est pour ça que je préfère celui-ci. Et d'autres en fait qui vont amener ça justement à l'idée de procréation. Et ça me plaît pas.
Mais comment ça se passe ? Comment ça se manifeste ?
Bah comment ça se manifeste ? Déjà ça se manifeste chez un loup qui s'est transformé, donc qui a eu le gène qui s'est déclenché. Le gène il se déclenche lorsque une des personnes descendantes des personnes qui ont eu le gène en fait rentre en contact avec un vampire, parce qu'ils sont supposés protéger en fait leur tribu des vampires. Donc une fois rentré en contact, ça enclenche la transformation. Et une fois transformé, il suffira d'un contact visuel pour s'imprégner d'une personne.
Et les deux personnes sont au courant ?
Alors oui, il y a un attrait en fait, comme un élastique qui te tire vers cette personne. Tu ressens aussi énormément d'amour ou d'affection en fait envers le loup qui vient d'être imprégné.
Et maintenant la partie bizarre, qui est que Jacob, donc quel âge a-t-il ? On va dire qu'il a 17-18, va s'imprégner de Renesmée. Renesmée c'est qui ? C'est l'enfant qu'auront Bella et Edward. L'enfant n'a que...
25 minutes.
Voilà, 25 minutes.
Non, elle est dans les bras de Rosalie et genre, bah voilà, il y a le contact en fait visuel et c'est là qu'a l'imprégnation. Et en fait, Jacob, d'ailleurs, dans le 2, pour ceux qui savent pas, c'est une petite anecdote, mais bon, je pense que tout le monde le sait, dans Tentation, à un moment, quand il se retrouve dans l'espèce de prairie avec le vampire Laurent et qui se fait pourchasser par des loups, on voit Jacob établir un eye contact avec Bella, dans l'espoir de s'imprégner d'elle à ce moment-là. Mais ouais, non, ça se passe pas, donc c'est là qu'il comprend que c'est pas son imprégné.
Et c'est son enfant. Qu'est-ce qu'on pense de ça, Mimi ?
Qu'est-ce qu'on pense de ça ? Je suis extrêmement en colère parce que ça avait déjà été amené au préalable dans le 3e tome, en fait, où l'ami de Jacob, qui fait partie aussi de la meute de loups, s'imprègne de la nièce d'Emily, qui est l'imprégnée de l'alpha, Sam. Ok. Est-ce que vous comprenez ?
Ok, ce que je comprends, c'est que la nièce est déjà imprégnée de quelqu'un.
Alors, la tante Emily, c'est l'imprégnée de Sam, l'alpha. Et Emily, elle a une nièce. Et donc, il va y avoir un eye contact avec Quill, qui est déjà transformé. Et donc, il s'imprègne de cette gamine qui a 5 ans. Déjà, ça avait terminé ce sujet-là, en fait. J'appréciais pas trop. J'appréciais vraiment pas. Mais c'est pour ça, en fait, que je suis pour, en fait, l'idée, peut-être, de âme-sœur. Parce que moi, par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer mon âme-sœur quand j'avais 3 ans et avec qui ça fait 20 ans maintenant qu'elle est là avec moi. Et donc, c'est mon ami, c'est quelqu'un, voilà, c'est mon âme sœur. Je suis persuadée que c'est la personne avec qui je suis censée marcher sur cette terre, que c'est mon deuxième bout d'âme. Être âme sœur, c'est pas je vais me marier avec toi, on va faire des enfants, t'es mon âme sœur. Non, on peut retrouver son âme sœur dans tout et n'importe quelle personne présente sur cette terre. Ça, c'est mon avis, c'est ma manière de penser.
Mais je pense que ce qui dérange vraiment, c'est les âges, c'est les écarts d'âge, c'est le fait que ce soit des enfants. Si encore, tu vois, s'ils étaient aux mêmes âges, bon...
Je comprends pas du tout, franchement, je comprends pas du tout pourquoi est-ce qu'elle... à ramener ça avec des enfants. Après, elle a expliqué, mais c'est pour expliquer l'attachement de Jacob et Bella pendant tout ce temps.
Non, mais il y a d'autres façons.
C'est très bizarre, ouais. Moi, j'aime pas du tout cette partie. D'ailleurs, je l'ai complètement occultée de mon univers. Enfin, cette partie de s'imprégner d'enfants.
Déjà, juste le terme.
Voilà, je ne vais même plus répéter, franchement.
Donc l'autrice s'est défendue de ça, en fait.
Elle s'est défendue, bah, surtout avec la petite blague à la fin de Jacob et Edouard. Est-ce que je dois t'appeler papa? Non, ah. non. Non, en fait.
Yuck.
Ouais, non. Bah non. Donc ça aussi, c'est occulté.
Dans ce même ordre d'idées, Edward a 117 ans, je sais plus quel âge il a, théoriquement. Bella a 17 ans. Et une histoire d'amour se passe entre eux. Après, il est bloqué à cet âge-là, parce qu'il a été transformé à cet âge-là. Donc peut-être que dans son esprit, pour toujours, il a 17 ans. Mais jouerait-il qu'il en a 100 de plus? Parce que toi, ça t'a bloqué quand t'as appris ça?
Quand j'étais plus jeune, pas du tout. Quand j'ai commencé Twilight, non, moi, il n'y avait aucun problème. Mais après, en grandissant, je me suis dit, mais attends.
Wait a second.
On parle d'un centenaire, là. Je suis persuadée que là, dehors, dans le vaste monde, bah, doit y avoir des vampires de 17 ans aussi. Donc qu'il aille chercher ces vampires-là. Là, aujourd'hui, justement, ça fait partie des choses, tu sais, que je te disais au début, que je pouvais romantiser à l'époque et qui aujourd'hui rentrent dans une case toxique.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que, jusque maintenant, bien que tu aimes Twilight, tu dis « Ah, ça, c'est un peu étrange ».
La notion de consentement dans Twilight, elle n'existe pas, hein, d'accord ? Il n'y a pas vraiment beaucoup de consentement. Le voyeurisme, bah, par exemple, le voyeurisme d'Edouard.
C'est vrai qu'il l'observe...
Non, il rentre chez elle, dans sa chambre, pendant qu'elle dort, dans un état d'inconscience. Il est là et il la regarde toute la nuit. Ça va pas? On est dans quel monde là, Edouard? Non, on ne fait pas ça.
Ne regarde pas les gens qui dorment. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui... Parce que ça, je m'en rappelle pour le coup, mais on a vraiment intériorisé ça en mode « Non, c'est romantique. »
C'est normal. Oh, il la regarde dormir. Non, ne me regarde pas dormir, s'il te plaît. Et en plus, après ça, il le lui dit et elle trouve ça mignon. Ah ouais, c'est vrai? Tu me regardais? Non. Si tu veux rentrer dans une situation de charme, c'est pas comme ça qu'on fait. En fait, on fait rien aux gens à leur insu. Et Edouard fait beaucoup de choses à l'insu de Bella. Et ça me gêne. C'est lui qui décide. Et par exemple, à la fin du premier tome et du livre, Bella, elle dit clairement « Je n'ai pas envie d'aller au bal. » Elle dit « Je suis une piètre danseuse. Ce n'est pas mon délire. Je me sens mal à l'aise. » Mais Edouard décide de l'amener au bal parce que c'est des souvenirs d'enfance qui doivent... Enfin, des souvenirs d'adolescente qui doivent rester. Oui, mais elle a clairement fait comprendre en fait qu'elle n'était pas à l'aise dans ce type d'événements. Et elle a droit, tout le monde n'a pas envie d'aller au bal de fin d'année en fait, tout simplement. Mais ça, c'est pas respecté. Elle se retrouve avec une robe bleue à froufrou, la couleur préférée d'Edouard, alors qu'elle est en plâtre parce qu'elle vient de se faire bien cogner par un vampire à cause d'Edouard, encore, et aussi un peu à cause de Bella, mais bref. Donc là, en fait, moi, je sais pas, je t'aime, j'ai envie de prendre soin de toi, tu me dis que t'as pas envie d'y aller, viens, on reste dans ta chambre, ça va pas nous tuer. Ça peut aussi créer un très bon souvenir de bal de fin d'année.
C'est vrai qu'il y a une balance de pouvoir qui est très déréglée entre les deux, même s'ils ont le même âge, si on regarde juste les chiffres, on sent qu'il y a quand même un rapport de supériorité où c'est Edward qui va dicter le tempo et puis Bella va vraiment suivre derrière.
C'est de l'interdépendance, comme je dis, lui à cet égard-là, et elle, parce que bah, elle va beaucoup s'accrocher, elle va faire énormément de choses dans le but de lui plaire, même si dans les livres, elle a un petit côté sassy qu'on va pas forcément retrouver dans les films, même ça, c'est pas assez. Parce qu'on le voit clairement, en tout cas moi je l'ai ressenti, le rapport de dominance. Quand il revient dans Hésitation, après l'avoir abandonné et l'avoir fait souffrir, etc., il refuse qu'elle voie Jacob, parce qu'il le considère comme dangereux, alors qu'il a failli la bouffer. Il lui a dit « J'ai eu envie de te tuer, mais c'est Jacob qui est dangereux. » Donc il lui coupe des câbles ou je sais plus quoi de sa voiture pour qu'elle ne puisse pas voir Jacob. Et ça, ça passe. Donc Bella n'est plus maître de ses mouvements.
À froid, c'est quand même terrifiant.
Ouais.
Cette histoire d'amour.
C'est ce que je me tue à dire. C'est ce que je me tue à dire. C'est pour ça qu'au début, oui, c'était romantique. Roméo et Juliette, super. Mais avec le recul et en grandissant, je ne souhaite ce type de relation à personne.
J'imagine que ça a joué dans le fait que tu passes de Edward à Jacob.
Oui, même si beaucoup de fans pensent que Jacob a eu aussi ce type de comportement-là. Jacob et Edward, ce n'est pas le même âge, parce que Jacob, c'est 15 ans, il les a vraiment. Il n'a pas 15 ans et 100 ans dans cette vie.
Ressenti ça. 30 ans.
Non, mais Edouard, il a un âge net et un âge brut.
C'est ça.
Alors que Jacob, tu vois, il a quand même 15 ans. Il faut savoir qu'il a clairement fait comprendre à Bella qu'il avait des sentiments pour elle. Et Bella a joué de ça parce qu'elle, elle avait besoin, encore une fois, tu vois, de cette dépendance. Bella avait besoin de Jacob, donc elle a continué à laisser une petite porte entrouverte pour pas qu'il la laisse et qu'elle ne recommence pas à se sentir seule. Mais en même temps, bah, elle lui a ouvert une porte. Donc lui, de son point de vue, lui, elle était amoureuse. Donc lui, il y a certaines choses que Jacob a fait qu'on peut aussi relever d'un mauvais comportement, tout comme Edouard.
Mais il y a l'âge aussi qui peut excuser certaines choses.
Exactement. Donc je ne l'éloge pas la même enseigne.
Je savais pas en fait que la tribu Killut existait dans la vie réelle. Je pensais que c'était une création en fait de Stéphanie Meyer. Et tu m'as dit que non. Je sais pas si tu pouvais m'instruire à ce sujet-là.
Alors moi-même je suis pas super instruite sur le sujet, donc je vais juste donner les connaissances que j'ai. Donc oui, c'est une tribu qui existe réellement dans la péninsule olympique, donc juste à côté de Forks, etc. Donc oui, ils existent seulement. Twilight, on va dire que ça a été un peu de l'appropriation culturelle parce qu'elle s'est servie de leur culture, l'a un peu remixée bah, pour son œuvre. Et à côté de ça, eux, ils n'ont eu aucune compensation d'utilisation d'une culture quand même. C'est une culture, c'est propre à soi, ça existe, ça ne peut pas être utilisé à des fins d'eux, tout simplement. Il n'y a pas eu de rétribution pour le clan, la tribu Killut, qui vivent donc sur la réserve de la poche. Donc les fans en fait, de Twilight ont ouvert une cagnotte pour lever des fonds en fait, pour venir en aide à cette tribu et donc comme compensation pour l'utilisation de leur culture dans un film bah, worldwide en fait.
Mais c'est choquant que ce soit les fans qui l'aient fait. Est-ce que Stéphanie Meyer s'est déjà exprimée là-dessus ?
Stéphanie Meyer ne s'est pas plus exprimée sur ça et d'ailleurs il n'y a pas eu que ça. On a aussi attrapé sa veste sur le fait que dans ses romans, elle décrit donc des personnages avec des features et un comportement et une culture Killut et qu'ensuite, lors du casting, elle ait son mot à dire et que par exemple, il n'y ait pas de natif américain pur dans le casting de la tribu Killut dans Twilight. On a un aperçu d'un acteur dans le 1 très bref et qui aurait pu jouer Jacob. Donc par exemple, Taylor Lautner n'a aucune, même s'il a essayé de nous faire croire, aucune origine native américaine.
On nous ment.
En fait, lui, il est européen.
Il est européen.
Oui, je suis trop en colère. Monsieur Taylor Lautner, européen. Alors, c'est un mélange, vraiment un melting pot d'origine. Mais je sais qu'on retrouve du German, je crois. Donc, pas du tout natif américain. Elle basait le choix des acteurs peut-être sur leur couleur un peu basanée.
Oh, mais regarde, je lis Wikipédia. Taylor Lautner a des origines françaises et allemandes du côté de son père et est en partie d'ascendance autochtone du côté de sa mère.
Faux.
C'est faux.
Okay. C'était dans les années 2016, un truc dans le genre. Justement, ça s'était ressorti, donc tout le monde en parlait. Et il avait dit, oui, en effet, j'ai du sang de natif américain. En tout cas, il avait bien dit le terme native American. Et ensuite, il est revenu, parce que certains avaient fait des recherches, en fait, et apparemment, donc, il était revenu sur ses paroles en disant, non, c'est pas vrai, etc. Je sais, en tout cas, qu'il était revenu sur ça, qu'il l'avait dit. Ça, c'est un fait. Une fois, il l'a dit. Je pense qu'avec la pression des fans, il a dû dire, oui, bon, c'est bon, je suis natif américain, lâchez-moi. Et puis après, bah, revenir, non, à la vérité, bah, non, en fait, mes origines, en tout cas mes origines connues, c'est ça, et dont le German, qui m'avait énormément choquée, parce que j'étais persuadée que Jacob aussi, que Taylor Lautner, pardon, était afro-américain. Ça, c'est le casting de Stéphanie Meyer. On lui a aussi reproché de dépeindre un peu les Cullen, donc comme les gens raffinés, riches, etc., et comme par hasard, les Killut, ce sont les gens violents, avec des problèmes de tempérament, assez sauvages, très pauvres, et à ça, madame n'a jamais répondu, en tout cas jamais, clairement.
Par contre, l'imprégnation, là, elle a répondu.
Ouais, et même cette réponse, ça me va pas, en fait, parce que dans ses livres, elle émet donc les deux possibilités, que un, ce soit un âme sœur, et d'autres, donc ce soit juste à des fins de procréation. Et ensuite, elle nous dit non, mais c'est juste pour expliquer l'attachement de Jacob pendant tout ce temps. J'ai l'impression que c'était juste pour boucler, pour donner une fin à Jacob. Et ensuite, est-ce qu'on peut se reconcentrer, s'il vous plaît, sur l'histoire d'amour de Edward et Bella? Mais c'est toi qui nous a introduit Jacob, c'est toi qui lui a donné cette dimension, c'est toi qui a. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui nous a ramené ça dans le 2. Tu peux pas juste espérer, en fait, des fans, une fin rush et que nous on dise rien. Il y en a qui vont parler et ça a été le cas.
Tu réécrirais la fin?
Je réécrirais la fin parce que j'aime pas l'image que ça donne. Encore une fois, ça n'engage que moi, c'est mon avis. Je n'aime pas du tout en fait l'image que ça donne de cette jeune fille qui vient à peine d'avoir son diplôme au lycée, qui se retrouve mariée et enfantée. On ne fait plus ça, même en 2005 on ne faisait plus ça. Peut-être que c'était le cas avant parce que c'était comme ça que la société se voulait. Mais aujourd'hui les femmes, elles veulent vivre aussi. Donc j'aurais laissé Edouard partir tout seul, vivre sa vie, il a le droit. Bella et Jacob ensemble, mais par contre, moi, il n'y aurait pas eu de bébé. Elle a 18 ans, c'est un bébé. Moi-même, j'étais en train de lire le livre, j'étais un bébé. Laissez-nous être des bébés, quoi. Si par exemple, c'était ma nièce, là, de 14 ans, qui devrait le lire, ça me choque que ce soit cette idée-là, en fait, qu'elle ait des principes d'une relation.
Est-ce que tu lui mettrais le livre en main, mais avec des trigger warnings, en lui disant attention, il y a ci, il y a ça?
Oh oui.
Ok, ce serait quoi?
Par exemple, pour les films, je lui ai dit attention, tu vois, elle est trop amoureuse. Bon, elle était jeune quand on a regardé, donc je devais quand même utiliser des termes assez simples, tu vois. Donc j'essaie de lui dire attention, elle est tellement amoureuse qu'elle s'oublie. On doit aimer, on peut aimer fort, mais pas aussi fort jusqu'au point de s'oublier. Attention, tu vois, là, elle le reprend, ils se remettent ensemble. Moi, je pense qu'elle aurait dû, tu vois. Donc j'amenais quand même mon opinion, et oui, ça a forgé son opinion aussi. Mais je tenais à ce qu'elle le sache parce que ce n'est pas une image que j'ai envie qu'on renvoie aux jeunes filles, tout simplement.
Entre l'amour que tu portais pour Twilight en 2009, quand tu avais 12 ans, et l'amour que tu portes pour Twilight maintenant, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui reste similaire aussi? Ça aussi, ça m'intéresserait.
Qu'est-ce qui change déjà, c'est que, comme je t'ai dit en fait tout à l'heure, quand j'ai découvert Twilight, j'étais, je pense, dans une mauvaise passe et je ne le savais pas. Et ce type de phase, en fait, ce n'était pas quelque chose dont on va parler avec ma famille ou que ma famille va forcément remarquer. On va dire, oh, elle est un peu triste, lui, bah voilà, sans plus. J'étais quand même assez triste. Il y avait beaucoup de questions, je commençais à grandir, il y avait des questions qui se posaient dans ma tête, je ne savais pas trop. Et Twilight, en fait, ça a été mon exutoire, mais vraiment, c'est le terme, où je me suis plongée dedans. Et c'est trop bête parce que là, je suis en train de le dire et je me rends compte que j'ai fait un peu de belle là aussi. Parce que pour m'oublier, ben, j'ai donné 100% de ma personne à Twilight. J'ai couvert mes livres. Et tous mes livres, ce sont les livres originaux, enfin, ce sont les premiers livres que j'ai eus. J'ai jamais racheté de livres. C'est-à-dire que dans mon tentation, tu ouvres, tu vois les gouttes de larmes. J'ai eu une relation très, très, très bizarre, en fait, avec Twilight, où je me suis accrochée parce que ça me permettait de m'évader, déjà, pour commencer. Ça mettait des mots sur des émotions, des sentiments que moi, j'arrivais pas forcément à extérioriser ou même à nommer, en fait, c'est des émotions. Je ne savais pas quel mot mettre. Et Stephanie Meyer, qui a une très belle plume, d'ailleurs, j'ai lu les romans en français et en anglais, et ça, on peut pas le lui retirer, elle écrit très bien. Et ben, ça me permettait, en fait, de me ressentir, mais à la fois de m'oublier. C'est très spécial et j'ai toujours beaucoup de mal à mettre de mots sur mes émotions, donc je dis juste que c'était une obsession. Parce que même aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de mal à expliquer cet effet que ça m'a fait, mais ça m'a fait du bien et ça m'a permis de m'ouvrir. Et ça, c'est merci Twilight pour ça. Là, aujourd'hui, j'ai d'autres manières de cope quand il va m'arriver une situation où je vais ressentir, où je vais être très triste. Mais par contre, ça me fait toujours du bien de replonger dedans. Une bonne couette chaude, en fait, c'est ça Twilight.
C'est la maison.
C'est la maison, c'est douillet, c'était mon havre de paix, en fait. Et à ça, et c'est pour ça que je te dis, j'évite de me mélanger avec la fandom Twilight.
C'est impur.
C'est propre à moi. C'est que moi et moi seule. J'évite de trop leur montrer parce que je peux avoir une interprétation qui va être propre à moi seule et qu'il ne faut pas venir déranger ou froisser.
J'ai des phases où je suis obsédée par quelque chose et je me dis c'est éternel. Cet amour-là, je le ressentirai de la même manière quand j'aurai 20 ans, quand j'aurai 30 ans, quand j'aurai 40 ans, quand je serai dans le cercueil, tu prononceras le mot du livre, de l'artiste ou quoi, je vais me réveiller, je vais être là genre yes. Mais quelques semaines passent, puis ça s'estompe un peu. Mais j'ai jamais vraiment encore eu de passion qui garde la même intensité. Ou alors, on va reprendre le même exemple de Harry Potter où il y aura toujours un truc de l'ordre un peu de la mélancolie, mais aussi de, bah, malgré tout ce qui s'est passé avec J.K. Rowling, de la gratitude, parce que comme ce que tu expliques avec Twilight, c'était quelque chose de très personnel et ça m'a construit d'une façon différente peut-être d'une autre personne. Il y a des parties de ma personnalité, de mon identité, de la manière dont je vois le monde qu'on pourrait relier à Harry Potter. D'une façon ou d'une autre, de manière vraiment très directe ou extrêmement indirecte. Ma question est la suivante. Est-ce que cet amour pour Twilight, un jour, va un peu s'atténuer sans forcément partir?
Alors, je vais répondre en deux fois. Je vais répondre en deux fois, je vais répondre à cette question juste après. Je reviens juste sur un point, justement, où tu disais il peut y avoir des choses ou des comportements ou autres qui vont te relier à Harry Potter. Et ben moi, c'est le cas avec Twilight. Ma manière de parler, par exemple.
Tu parles comme les Volturi ?
Non, mais je vais avoir, en fait, des manières de parler qui ressemblent énormément à Edward. Et c'est naturel pour moi parce que c'est à force d'eux. Mais ça vient de lui.
Comme lesquels ?
Par exemple, une fois, j'étais avec ma meilleure amie et on parlait. Et elle me dit quelque chose et je lui dis « Plaît-il ?» Et ça, c'est quelque chose que j'ai pris d'Edouard. Il arrêtait pas de le dire, en fait, à Bella dans le tome 1. Et moi, je savais pas ce que ça... J'avais jamais entendu ça. Genre, pourquoi tu dis « Plaît-il ?» Pourquoi tu dis pas « Hein ?» comme tout le monde. Mais après, donc, pour répondre à ta deuxième question, moi, il y a un truc, c'est un fait. Je suis fan de Twilight. Ça fait 14 ans que je suis fan. Oui, il y a eu des moments où ça a un peu baissé, l'intensité a baissé parce que j'étais fan d'autres trucs, je me concentrais sur d'autres trucs, j'avais une période d'obsession pour d'autres trucs. Mais 50% de mon intensité de quand j'avais 12 ans, elle sera toujours là, toujours. Je pense à Twilight constamment, je me réfère à Twilight constamment. Quand j'ai rien à faire ou quand je vais m'ennuyer, je vais naturellement et automatiquement me tourner vers Twilight. Je me rappelle que j'avais ce sentiment avant où je me disais, on dirait Twilight, c'est pour moi, c'est à moi. Et aujourd'hui, je fais des blagues comme ça, où je dis, hey, vous parlez pas de Twilight, c'est à moi. C'est moi qui en parle. Sur un fond, en fait, où vraiment, heureusement que ça a été là. Mimi, je juge beaucoup Mimi, et Mimi travaille aussi beaucoup sur le cas de Mimi. Et donc, je sais que parfois, je vais un peu trop loin, mais je sais aussi que je le fais parce que ça me fait plaisir, que j'aime ça. Et mon obsession, je l'aime, en fait. Et si d'autres personnes peuvent l'avoir, et si ça leur apporte ce que moi, en tout cas, ça m'a apporté, les gars, allez-y. Parce que, oh, j'ai vécu des trucs.
Écoute Mimi, c'était vraiment un plaisir de te parler.
Moi aussi, ça fait vraiment plaisir en fait de parler de quelque chose qu'on aime.
Écoute, je vais te laisser avoir le mot de la fin. Et par mot de la fin, j'entends un seul mot qui peut ou non avoir un lien avec l'épisode qu'on vient de tourner.
Plaisir.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce 30e épisode d'Univers Alternatif sur la saga Twilight. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Pink et Wild Capster. Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcasts. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans 2 semaines avec un épisode sur le syndrome d'Asperger.